du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Nouvelle marque pour relancer la consommation de bois certifié en provenance du bassin du Congo. Un fermier péruvien qui accuse un géant de l'électricité allemand d'être responsable du changement climatique. Un militant écologiste malgache qui se bat contre le trafic du bois de rose. Et un concours doté d'1 million d'euros pour vous inciter à innover dans la gestion des déchets. Tout cela, ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Mais tout de suite, direction le Pacifique. La goélette scientifique Tara poursuit son expédition. Elle quittait l'Orient, son port d'attache, il y a plus d'un an, pour entreprendre une étude des récifs coralliens à travers tout l'océan Pacifique. Après avoir réalisé plus de 2000 plongées et constaté le blanchissement de nombreux coraux dans différentes zones étudiées, les scientifiques se réjouissent à présent d'explorer des récifs en bonne santé dans les eaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Noélie Pansio a suivi l'équipe pour nous faire découvrir un nouveau volet de cette grande expédition.
Alors, théoriquement, c'est à peu près où le point là, Émilie, pour avoir un ordre d'idée? C'est ça.
Sur
le nord. Et ça correspond à ce que me dit le GPS, donc on est bien. Allez, on met les gaz. Ça a l'air de tomber assez vite. Je regarde, là, j'ai 38 mètres. Tu vois, et là, à 100 mètres devant, il y a quelques mètres à peine. Là, j'ai 25. Et là, on passe direct sur 5, quoi. Et là, ah ouais, regarde. Là, il y a 5 mètres. Alors là, vous avez un beau tombant derrière moi. Hein. Bon. Alors, eh bien, écoute, cher Olivier, je te laisse la primeur de jeter l'ancre.
À la une, à la deux.
On se prépare. C'est magnifique.
Ah oui, pour le coup, oui.
Aucun bruit. Mer plate. Ces oiseaux qui survolent l'eau. Le translucide. Que demander de plus?
Il est 14h en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans la baie de Kimbé, aux abords de l'île de Nouvelle-Bretagne. Et je me trouve à bord du semi-rigide de Tara, sur le prochain site de plongée, à 100 mètres d'une petite île luxuriante bordée d'une eau turquoise. À mes côtés, quatre scientifiques s'apprêtent à plonger, et c'est Daniel Cron, chef de pont de Tara, qui assure leur sécurité. Tous participent à une mission un peu particulière, baptisée biodiversité.
Tara de Césaire.
Ouais, là, oui, je t'écoute.
Ouais, immersion des quatre plongeurs à l'instant. Donc, Émilie, Bernard, Olivier et Myriam.
Ok, noté.
Émilie Boissin, vous êtes biologiste marin au CRIOB et vous êtes chef scientifique de cette mission de 10 jours. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'objet de cette mission?
On est ici en baie de Kimbé pour faire un inventaire de la biodiversité avec en particulier plusieurs groupes, les éponges, mais aussi les zoanthères et les hydraires qui sont de la même famille que les coraux. On va également faire une étude génétique in situ avec un petit appareil qui s'appelle le MinION et qui va nous permettre de séquencer à bord de Tara les coraux que l'on prélèvera.
Pourquoi avoir choisi la Papouasie-Nouvelle-Guinée pour cette étude?
On a choisi la Papouasie-Nouvelle-Guinée parce que c'est l'entrée dans le triangle de corail qui est l'épicentre de la biodiversité marine, c'est-à-dire la zone qui concentre le plus d'espèces marines. Par exemple, 600 espèces de coraux sont recensées dans cette zone, ce qui représente 75% de tous les coraux décrits, ou encore 2000 espèces de poissons.
Et le triangle de corail, est-ce que vous pourriez nous le situer?
Le triangle de corail se trouve à l'ouest du Pacifique et est délimité par l'Indonésie, les Philippines et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Quel est le protocole suivi pendant ces plongées?
Là, ce sont vraiment des plongées d'exploration. On essaye de regarder de partout, à chaque centimètre carré, s'il y a des éponges nouvelles qu'on n'a pas encore répertoriées ou des hydraires.
Merci Émilie, je vous laisse vous équiper parce que vos collègues vous attendent.
Ça fait 8 jours qu'on plonge ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée et chaque plongée, chaque journée est différente.
Et du coup, vous avez prélevé quoi aujourd'hui?
Alors moi, j'ai prélevé des hydraires.
qui sont de la même grande famille que les coraux, comme les méduses aussi, donc coraux, méduses, hydraires. Et Bernard a prélevé des ascidies.
Et à quoi ça ressemble, une hydraire ?
Ça ressemble à une espèce de fougère ou une plume, ça ressemble à un végétal, mais c'est en fait une colonie formée de petits animaux.
Alors heureux, Bernard ?
Féerique.
Ah oui, à ce point ?
Ah oui, t'as pas trouvé ?
Ah, les paysages.
Ah ouais,
les paysages magnifiques, ouais, c'est ce que je disais, ouais. Une structuration avec les éponges, les coraux, là, qui
est tableau aussi immense. Il y en avait une, 8 mètres, j'ai estimé 8 mètres de diamètre.
On a trouvé peut-être une ou deux autres éponges, oui, mais il y a une plus faible diversité, mais en tout cas des choses intéressantes, ouais. Ouais, ouais.
Au niveau des coraux, là, c'est fabuleux. Le nombre d'espèces et puis les tailles des espèces.
Tara de Césaire, nous recevez où ?
Allô.
Donc tu peux noter qu'il y a 10 minutes, Émilie et Bernard ont fait surface. Voilà, et on remonte l'ancre là, et puis on fait route vers vous. Il y en a pour un petit quart d'heure, je pense.
Ça marche, bah, je vous attends. Yes.
De retour sur Tara, l'équipe va à présent traiter les échantillons prélevés. Bernard Banex, vous êtes chimiste et chercheur à l'INSERM. Pouvez-vous nous décrire ce que vous avez vu sous l'eau depuis que nous sommes arrivés en Papouasie-Nouvelle-Guinée ?
Alors moi je suis impressionné par la quantité, le nombre d'espèces présentes et la compétition qui existe. On a l'impression d'avoir affaire à une multitude d'organismes qui s'installent les uns sur les autres. Il y a beaucoup plus d'organismes que de places disponibles. Donc chacun lutte pour essayer de trouver sa place. Et c'est ce qui, pour moi, frappe dans un premier temps quand on met le nez sous l'eau. Cette intense compétition entre les coraux.
Et pour les auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont pas la chance de pouvoir mettre la tête sous l'eau, est-ce que vous pourriez nous décrire les paysages que vous voyez ou que vous avez vu ?
Oui, alors décrire, ça va être difficile parce que c'est tellement complexe. Une multitude d'espèces, donc ça veut dire une multitude de formes. Des formes encroutantes qui vont recouvrir la roche, le substrat. Par-dessus ça, des espèces qui vont former des branches, donc on appelle ça des coraux branchus, qui partent dans tous les sens, plus ou moins fins. Certains sont un peu découpés comme de la dentelle. Et puis une multitude de couleurs. Ça va du rouge au vert, au bleu, au noir. Alors on a des contrastes de couleurs sur des tout petits espaces. C'est vraiment, ça explose, visuellement parlant.
Et alors là, vous êtes devant des bacs blancs dans lesquels on traite des échantillons. Vous sortez de votre filet de plongée la collecte du jour. Qu'est-ce que vous avez récupéré ?
Alors j'ai récupéré deux espèces d'acidies différentes et puis aussi une cyanobactérie.
Qu'est-ce qu'une cyanobactérie ?
C'est un micro-organisme, mais dans ce cas-là qui forme des filaments. Et c'est en fait une bactérie qui fait de la photosynthèse, donc entre une bactérie, très schématiquement, et une algue.
Et en fait, ce sont les molécules que contiennent ces espèces qui vous intéressent ?
Oui, ce sont les molécules qui m'intéressent en tant que chimiste. Ces organismes sont en compétition permanente pour éloigner, repousser les prédateurs, pour pouvoir se développer, donc éloigner les compétiteurs, pour se prémunir de la colonisation. Et donc, la stratégie adoptée par la plupart de ces organismes, c'est de fabriquer des substances, des molécules, qui vont être des agents anti-prédateurs, anti-colonisateurs, anti-compétiteurs. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est de comprendre pourquoi ces organismes fabriquent ces molécules. Donc est-ce que ce sont vraiment des substances de défense pour l'organisme ? Est-ce que l'organisme constitue un bouclier chimique autour de lui pour se préserver ? Et après, bien sûr, je vais essayer de voir si ces molécules peuvent avoir un intérêt pour l'homme dans différents domaines qui peuvent être les domaines de la santé, peut-être de nouveaux antibiotiques ou de nouveaux agents anticancéreux, mais pas uniquement, aussi dans le domaine des biopesticides, des antifoulings ou des crèmes écrans solaires.
Yeah.
Olivier Thomas, vous êtes chercheur en sciences marines à l'université de Galway en Irlande. Vous avez un petit sachet en plastique transparent dans la main, dans lequel vous venez de placer des organismes difficiles à identifier. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit de zoanthères, c'est un groupe particulier d'invertébrés marins. Ça s'appelle aussi des petites anémones coloniales de mer. C'est relativement fréquent dans le Pacifique, mais ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on n'en a pas trouvé énormément. Et ça, c'est une espèce excessivement intéressante parce qu'on l'a trouvée juste à la fin de la plongée. Et ça semble être une espèce nouvelle de par les couleurs et la morphologie de l'espèce qu'on vient de trouver.
Pouvez-vous nous décrire ces animaux ?
Donc, ce sont des petites anémones coloniales. Du taille environ 1 cm, de couleur à peu près grise. Et puis à l'intérieur, l'originalité de cette possible nouvelle espèce, c'est qu'à l'intérieur, on a une forte coloration orange qui fait qu'éventuellement, on aurait vraiment affaire à une nouvelle espèce.
Existe-t-il des chiffres, des estimations sur le nombre d'espèces qui restent à découvrir dans les océans ?
Donc la recherche marine est relativement récente, elle a débuté que dans les années 60. Donc on estime aujourd'hui à peu près à 2 200 000 le nombre d'espèces qui sont dans les fonds marins. Aujourd'hui, les taxonomistes ont identifié aux environs de 200 000 espèces seulement, donc ce qui fait qu'il resterait encore 90% identifiés.
Cette mission de 10 jours dédiée à la biodiversité marine était aussi l'occasion d'étudier génétiquement, à bord, les coraux et les micro-organismes vivant à leur côté. Et ce, grâce à un nouvel appareil de séquençage miniature nomade. Les explications de Noélie Pensio.
Julie Poulain, vous êtes ingénieure d'études au Génoscope, appartenant au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes venue faire à bord de Tara ?
Oui, tout à fait. Alors, on est venu avec un petit séquenceur nomade, ce qui nous permet de décoder l'ADN au niveau du site d'échantillonnage, vraiment en temps réel.
Est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est l'ADN ?
Oui, alors l'ADN est une molécule contenue dans toutes les cellules d'organismes vivants et c'est le support de l'information génétique. En d'autres termes, c'est l'empreinte digitale de l'organisme en question.
Nous nous trouvons dans votre cabine, derrière vous votre banette, votre lit, et devant vous une grande caisse de voyage qui a été retournée. Ça vous sert de paillasse ?
Oui, tout à fait. En fait, il y a tellement de choses qui se font à bord de Tara qu'il faut optimiser un petit peu l'espace. Et donc cette caisse, en fait, c'est la caisse où j'avais transporté tout mon matériel scientifique que j'utilise aujourd'hui comme paillasse dans ma cabine.
Et au cours de ce leg dédié à la biodiversité, vous vous intéressez à quel type d'organisme ?
Alors, on va s'intéresser au corail, mais également à la microalgue qui vit avec le corail en symbiose et également à tous les micro-organismes qui vivent avec ce corail.
Là, vous allez commencer votre manipulation et devant vous se trouvent ce que vous appelez des cônes et puis des grandes seringues.
Ces grandes seringues, comme vous dites, ce sont des pipettes qui permettent de prélever des liquides et de les transférer de tube à tube, en fait, pour préparer mon ADN au préalable du séquençage.
Un ADN extrait il y a quelques heures seulement sur place.
Oui, tout à fait. En fait, ça correspond aux ADN extraits à partir des morceaux de coraux collectés sur le dernier site par les plongeurs. Donc là, j'ai un tube contenant mon ADN. Je vais prendre à l'extrémité de ma pipette un cône. Je vais prélever mon ADN que je vais transférer dans un autre tube. Voilà. Et puis, je vais ajouter un réactif qui va me permettre de nettoyer mon ADN. Donc maintenant, je récupère mon tube et on est prêt à déposer notre ADN sur le séquenceur qui se trouve à quelques mètres d'ici dans une pièce climatisée puisque pour que le séquenceur se mette en route, il ne faut pas être au-dessus de 30 degrés.
Oui, dans le bateau, il fait plus.
Il fait largement plus. On va aller déposer ?
Et donc dans cette pièce, pas mal d'ordinateurs et de machines qui tournent en continu. Et alors il est tout petit ce séquenceur.
Oui, il est tout petit, il est plus petit qu'un smartphone.
Donc là, avec ces toutes petites machines, on arrive à identifier pas une seule espèce, mais plusieurs, non ?
Oui, alors au préalable, j'ai fait un mélange d'ADN préparé qui cible effectivement soit le corail, soit la microalgue symbiotique qu'on appelle aussi la zooxanthelle, soit les bactéries. Donc c'est un mélange de ces différents ADN que j'ai préparés préalablement qui sont déposés et on va pouvoir en une seule opération identifier quelle est l'espèce de corail, quelles est ou quelles sont les espèces de zooxanthelles présentes et quelles sont les espèces bactériennes associées également à ce corail.
Et normalement, les machines de séquençage sont de très très grosses machines. Et normalement, les machines de séquençage ADN classiques sont très volumineuses. Pensez-vous que ce petit séquenceur ADN puisse représenter l'avenir des études génétiques? Est-ce que ce petit outil, c'est l'avenir pour la génétique?
Oui, pour une grosse partie de la génétique, effectivement, c'est l'avenir, notamment pour des expéditions telles que la nôtre. Où on peut faire du séquençage sur le terrain, ce qui à terme peut éviter de collecter les échantillons, de les conserver, de les transporter, de les acheminer jusqu'à nos laboratoires. Là, ça nous permet d'avoir nos résultats sur le site même de la collecte des échantillons. Donc ça peut s'appliquer au milieu marin, mais à plein d'environnements différents.
Il est temps pour nous de remonter sur le pont où l'équipage accueille en ce moment même les villageois des communautés alentours afin de leur présenter l'expédition Tara Pacifique.
Andarili, marili, vlayo falem, vale, anda falem, vale. Ndwar yo vole, bube, yo vole, bube, yo vole, bube.
My name is Raphael Guirou.
Je m'appelle Raphaël Guirou. Je viens du district de Talassea, de la ville de Kimbé. Le chef-lieu de la Nouvelle-Bretagne occidentale.
Vous disiez quelque chose d'intéressant un peu plus tôt. Vous disiez que l'équipage vous demandait si vous aviez des questions suite à leur présentation. Vous ajoutiez que vous n'en aviez pas car vous ne savez pas ce qui se trouve sous l'eau, vous ne connaissez pas le monde sous-marin.
Oui, parce que vous collectez des coraux. Mais nous n'avons jamais vu cela, parce que ces organismes vivent en profondeur. Donc, toutes les choses que vous collectez, dont vous nous avez parlé, sont des choses nouvelles pour nous. Vous utilisez des machines pour regarder à l'intérieur des organismes, à travers un microscope ou d'autres choses. Voilà pourquoi vous nous l'expliquez. Nous ne pouvons pas poser de questions sur des choses que nous ne connaissons pas.
Que retiendrez-vous de cette rencontre, cette présentation ?
Je comprends que les recherches que vous faites aideront les gens dans le futur, génération après génération. Parce que dans la mer, on pense qu'on peut tuer des poissons sans bonne raison. Mais certains moyens de pêche sont dangereux. Nous gaspillons le poisson. Nous tuons les poissons alors que parfois, nous ne les mangeons même pas. Votre venue ici, c'est nouveau pour nous. Vous étudiez toutes ces choses et vous nous en parlez. C'est nouveau. C'est comme enseigner à des étudiants.
Les chalets remontés à bord. Les villageois ont regagné leur embarcation. Et nous allons bientôt lever l'ancre.
Ouais, ouais.
Ce reportage de Noélie Pension a été réalisé par François Porcheron. Si vous voulez soutenir l'équipe de Tara, vous pouvez faire un don par SMS ou sur leur site taraexpedition.org. Et si vous voulez suivre l'expédition en images, rendez-vous sur France O ce dimanche à 20h55 pour la diffusion du documentaire Tara, l'archipel des rois. Restez sur RFI, on se retrouve juste après le flash d'info. A tout de suite.